Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Studio ZEF, l'ALEP de l'éducation populaire à Blois. Et pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, Mélanie est là sur le plateau. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Et pour nous accompagner aussi pendant cette demi-heure, une heure, on va voir hein, combien de temps ça dure selon les actualités de l'ALEP, il y a Virginie. Virginie, bonjour.
Bonsoir.
Oui, bonsoir, t'as raison. Ouais, non, mais c'est vrai, on replace un petit peu la situation.
La temporalité.
Ouais, la temporalité, ouais. Heureusement que t'es venue finalement.
Finalement.
Promis, c'est en direct.
On commence par quoi ? Peut-être un retour sur les conférences ou les vendredis de l'espace Quignard. Voilà, je cherchais le mot.
Oui, c'est un petit peu dur aussi, ouais. Les vendredis de l'espace Quignard. Ouais, il y a ouais. Trois mots dans le même. Un peu compliqué. Alors,
oui, vas-y, les vendredis de l'espace Quignard, juste pour information, c'est vendredi de cette semaine, donc vendredi 7 février, ouais. À partir de 18h. On va vous donner la programmation un peu de ce qui va se passer tout à l'heure, mais on aurait aimé faire un point sur l'histoire des vendredis espaces Quignards, depuis combien de temps ça existe à l'espace Quignards, avec qui c'est travaillé, tout ça. Donc Virginie saura mieux que moi parce qu'elle était là au démarrage des vendredis. Moi, je n'y étais pas.
Tout à fait.
Virginie, on peut rappeler peut-être que tu es la directrice.
Qui je suis,
ah ben oui.
Tout à fait,
hein,
c'est ça, de l'ALEP.
De l'ALEP.
Voilà. Donc les vendredis de l'espace Quignard commencent à émerger. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est en 2010, 2009-2010, on en a déjà plus ou moins parlé de cette histoire, mais la CAF se désengage du centre social Quignard, donc c'est une directive du Loir-et-Cher, mais ça s'est fait aussi dans d'autres lieux. Et donc il y a tout un travail qui est mené pour savoir qui doit reprendre le centre social. Donc en fait, il y a des équipes qui se créent, des équipes collectives entre le centre social et l'ALEP, notamment, et puis aussi le service jeunesse qui à ce moment-là n'est pas aussi présent qu'aujourd'hui, mais qui a déjà des moments de présence. Et puis il y a une commission qui s'appelle la commission BAR.
BAR.
BAR. La commission BAR. Pourquoi la commission BAR ? Non, on n'était pas à boire du Ricard, du whisky, tout ça. Non, à l'espace Quignard, juste à l'entrée, il y a un bar qui est plutôt très accueillant. Et on s'est dit, c'est ce lieu-là qui est le lieu de vie de tout l'équipement. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on appelait la commission BAR. Voilà. Et voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises pendant au moins un an. Hein. Bon, après, pas tous les jours, donc voilà. Mais deux, trois fois dans l'année, en se disant, il faut faire vivre ce lieu ensemble, les équipes donc de l'ensemble de l'équipement. Et a émergé l'idée de créer un événement trimestriel, un événement qui permettait d'une part de valoriser des talents artistiques, et en particulier des talents artistiques amateurs, du quartier, mais également du Blaisois, et puis de permettre aux habitants du quartier de venir s'éclater un soir, et donc en particulier le vendredi. Voilà, c'était de créer un événement festif autour du bar. Voilà. Et donc, on a lancé la première édition, ça devait être en 2011, donc à la rentrée de septembre 2011 à peu près. On a créé toute une programmation. Et donc, depuis 2011, tous les ans, on a eu trois vendredis de l'espace Quignard pendant plusieurs années. Après quatre, là, on est retourné à trois exemplaires. Et on a réussi depuis presque 10 ans à faire venir un nombre assez important d'artistes amateurs musique, artistes amateurs chant, artistes amateurs danse également. Donc c'est l'occasion aussi de remercier l'association Artistreet qui a contribué largement à la réussite de ces événements. Artistes amateurs, peintres et également un format court-métrage, cinéma, qui nous paraissait intéressant. Un autre format également autour de la lecture. Poèmes, poésie, ça pouvait être aussi de la lecture de textes, ou également le jeu théâtral, puisqu'on a eu à des moments l'atelier théâtre de l'ALEP, par exemple. On a eu à des moments des jeunes du lycée Camille Claudel qui sont venus, ils avaient créé leur groupe sans nom. Et alors ça devait être 2012, ils n'avaient encore pas de nom à leur groupe. Et en fait, les échanges se sont faits pendant cette soirée-là. Et en fait, les spectateurs cherchaient un nom pour ce groupe. Voilà, c'est une petite anecdote. qui est plutôt sympa. Donc le principe étant qu'on organise là à l'heure d'aujourd'hui, mais avant aussi centre social, service jeunesse et Alep, et on propose également un apéro qui peut être préparé soit par une association lambda, ça a été à un moment donné l'ACFIDA qui est une association italienne en fait, ça peut être des bénévoles, là par exemple vendredi les associations de parents d'élèves de l'école Quinière et Molière s'investissent pour préparer l'apéro du prochain vendredi de l'espace Quinière. Voilà ce que je peux dire, c'est toujours un moment plutôt chouette. Franchement, hein, c'est pour les équipes, c'est plutôt sympa. Et pour le public, visiblement aussi, puisqu'on a toujours une centaine de personnes à peu près qui passent dans la soirée, dans le hall de l'espace Quinière principalement. De temps en temps, on utilise la salle de spectacle, notamment pour tout ce qui est danse. Mmh. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas danser sur le bitume du hall. Voilà.
Est-ce qu'il y a une demande par rapport au public ?
Alors, dans cette commission, il y avait effectivement des habitants qui participaient, des bénévoles du centre social et ou de l'Alep qui participaient. Donc, il y a effectivement cette émergence collective entre des professionnels et des bénévoles, population habitants des quartiers Quinières, du quartier Quinière.
Oui, parce qu'on peut remarquer que différents lieux culturels et même parfois dans les cafés, il y a ce qu'on appelle des scènes ouvertes qui sont organisées et ça a toujours un franc succès.
Hein. Oui, complètement.
Les gens, d'abord, ça permet effectivement de découvrir qu'il y a des gens qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais, mais qui sont bourrés de talent. Donc j'imagine que pour vous, ça doit être un peu la même chose. Est-ce qu'il y a des habitués qui reviennent à tous les vendredis de l'espace Quinière, par exemple ?
Alors, à tous, non, parce que bon, forcément, on essaye de varier. Mais il y a eu des périodes où on a eu des personnes qui revenaient régulièrement, effectivement, voilà, pour se produire. Alors après, on essayait d'être le plus juste possible pour qu'une grande majorité passe.
Voilà. Et comment ça s'organise concrètement ? Si on veut participer à un vendredi Quinière, est-ce qu'il faut s'annoncer à l'avance ?
Oui, c'est pas le principe de la scène ouverte, effectivement, où on arrive et on dit je veux chanter. Non, en amont, nous, on fait une programmation. Donc, soit on va chercher, soit on vient vers nous. On programme, donc vers mai, juin, juillet, on programme 3 dates dans l'année. On les communique et ensuite, qui veut se présente à nous. Oui. Donc soit à l'Alep, soit au centre social, soit au service jeunesse. Voilà.
D'accord, ça permet de vous organiser.
Oui, tout à fait.
Et de faire un tour de rôle, que tout le monde ait bien son temps pour s'exprimer.
C'est
ça. C'est aussi une question d'organisation. Quoi.
Tout à fait.
Normal. Vous accueillez à peu près combien de personnes à se produire ?
À se produire, je ne sais pas, ça peut faire entre 10 et 15 personnes. Enfin,
ça fait une belle soirée, là, quand même.
Alors, ce n'est pas forcément une personne à chaque fois qui passe. Hein. Ça peut être si c'est un groupe, tu vois, voilà. C'est vraiment très grossièrement 10 à 15 personnes.
Ouais. D'accord, très bien. Bon, belle initiative. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des talents cachés ou révélés, vous pouvez contacter l'Alep. Donc, on rappelle le prochain rendez-vous de...
Vendredi 7 février, à préciser, c'est quand même un élément important. Pour ce vendredi-là, c'est un peu spécial puisqu'il se fait dans le cadre du salon Graines de lecteur, qui est organisé par le centre social, enfin, avec d'autres centres sociaux. Et donc, voilà. Donc, il y a un flash aussi sur tout ce qui est enfant, voilà, avec des propositions pour les enfants et aussi des enfants qui vont venir se produire. Mais c'est aussi pour les adultes, bien sûr.
D'accord. Très bien. Merci, Virginie. Mélanie,
je vais donner un peu la programmation. Elle n'est pas forcément tout à fait précise. Ouais. Voilà. Pour donner un peu la surprise.
Bien sûr.
En gros, sans trop donner les horaires, mais il y aura du chant et de la danse par l'atelier éveil musical du centre social Quinière. Le comité de lecture va aussi lire des textes. Artie Street sera présent pour faire de la danse hip-hop avec des participants et des participantes s'ils veulent et des enfants. Il y aura une performance de peinture aussi qui va un peu durer, pas tout au long de la soirée, mais qui va commencer à un moment et que, voilà, on pourra les voir de temps en temps. On refera un flash sur eux pour voir où ils et elles en sont. Ensuite, on fait comme une petite scène ouverte, mais déjà prévue aussi, de jeunes talents des écoles et du quartier, des enfants qui voudraient venir nous montrer leur talent. Alors,
c'est toujours ouvert.
C'est pas complet, donc vous pouvez vous adresser à l'équipe plutôt du centre social. C'est Sophie au centre social qui gère la partie scène ouverte pour les enfants. Il y aura du chant fait par des adultes. Il y a des adultes de l'atelier chant de l'Alep qui vont chanter. De la guitare aussi, des ateliers de l'Alep, donc adultes et enfants. Enfants. Et puis il y aura un atelier djembé aussi, et danse, pour apprendre à faire du djembé et à danser. Plus l'apéro qui sera préparé par les associations de parents d'élèves de Quinière et de Foch.
Une belle soirée en perspective, hein.
Tout à fait, ouais. Ah, oui. Oui, là, je pense que c'est plutôt chouette. Et ouais. Puis la partie djembé, je pense que ça va être très chouette. Ouais. C'est fait par un monsieur qui vient à l'espace Quinière de temps en temps et qui nous vient du Sénégal et qui travaille justement, qui a déjà fait avec les enfants. Il va ramener 2-3 djembé, voilà, pour faire des essais. Et puis il va initier le public qu'il souhaitera. Et puis ensuite, on pourra danser à la fin. Avec eux.
Parfait. À présent, peut-être qu'on peut faire un petit retour sur, par exemple, la conférence gesticulée.
Alors ça a commencé, la soirée a commencé à 18h par le vernissage de l'exposition d'ici et d'ailleurs. Donc c'est un projet qu'on a commencé à mener, toujours en partenariat avec le centre socioculturel et le service jeunesse. Donc on est venu en parler ici, c'était le mois dernier avec Lola. On peut peut-être faire un point dessus avant de parler de la conférence gesticulée. Dans le cadre de la venue de Julie Babamy de Souza, la conférencière gesticulante qui est venue le 30 janvier, on s'est dit, elle va pas juste venir comme ça et on va rien mettre autour, juste faire une conférence gesticulée pour faire une conférence gesticulée, même si c'est super intéressant et que c'était vraiment bien. Mais j'ai d'abord rencontré Lola, donc du service jeunesse, et on s'est dit, il faudrait que cette question-là, elle est les jeunes, en tout cas les jeunes avec qui Lola travaille, ça les intéresse, parce que pour resituer un peu, c'est des questions d'intégration, d'identité, d'immigration, de liberté, voilà. Donc c'est des questions qui sont intéressantes pour les jeunes et desquelles ils parlent souvent. Donc on s'est dit comment on fait pour leur parler de ça et comment on fait pour les faire venir à la conférence gesticulée, qui est quelque chose qui est déjà pas connu beaucoup à Blois, par exemple, mais par les jeunes peut-être encore moins. Donc on a fait des après-midi jeux de société concernant ces questions-là avec les jeunes, et puis on s'est dit pourquoi pas mettre en lumière les origines des jeunes gens qui fréquentent l'espace Quinière et le service jeunesse de l'espace Quinière. Donc on a fait une grande carte du monde en Liège, sur laquelle on a mis un point au milieu en France, enfin au milieu, la France n'est pas forcément au milieu, mais en tout cas sur notre carte à nous, elle l'est. Et avec des bouts de laine, des bouts de ficelle, les jeunes, au départ, ont pu tracer leur parcours à eux, ou le parcours de leurs parents, le parcours de leurs grands-parents, voilà, en fonction d'où ils venaient dans le monde. On a pris en photo les personnes avec un Polaroid, et puis on leur a demandé de nous dire ce qu'ils voulaient sur leur parcours, sur ce que c'était pour eux de vivre ici en France, s'ils y étaient nés. Voilà. Donc on a fait ça avec les jeunes, mais aussi avec les adhérents et adhérentes de l'ALEP, en l'occurrence plutôt des animateurs et animatrices de l'ALEP nous concernant, et des personnes qui fréquentent aussi l'espace Quinière, enfin le centre social Quinière. Donc ça a donné une grande carte du monde qu'on a inaugurée jeudi soir, et sur laquelle on peut continuer à travailler. Justement, on va continuer à travailler, et les adhérents et adhérentes des 3 entités de l'espace Quinière peuvent continuer à venir nous voir pour nous dire, moi aussi je voudrais tracer mon parcours. On va continuer aussi à aller vers eux pour qu'ils puissent le faire. Et après, voilà, on est en train de réfléchir aux suites du projet, comment on continue à mettre en lumière toutes ces origines et toute la richesse des origines et des parcours des personnes qui fréquentent l'espace Quinière.
Je me permets, donc c'est l'idée de l'identité, et je dirais que l'identité de l'espace Quinière, c'est bien celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a 2 aspects, il y a cette mixité culturelle, comme on dit, enfin voilà, qui est très très présente, et c'est de valoriser, comme tu disais Mélanie, très bien, cette richesse interculturelle et sociale aussi. Ouais. Et nos 3 structures, voilà, permettent de drainer ce public et ce mélange, et c'est assez, c'est le point fort de cet équipement, quoi. Mm-hmm. Je crois que voilà, c'est un beau projet qui, on espère, se poursuivra.
Et c'est plutôt un espace ouvert.
Alors pour l'instant, c'est un espace ouvert, ouais. Effectivement. C'est en travaillant à partir de ces identités qu'on souhaite faire émerger un projet, finalement. Ouais. C'est à partir de ça qu'on... C'est le principe du projet. On avance en marchant. Ouais. Et voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. On a de la matière. Ouais. Et on continue à drainer de la matière. Et on souhaite aller plus loin dans la démarche pour mettre en lumière de façon plus importante ce début de travail. Quoi.
Ouais. Et avec les personnes qui voudront aussi qu'on participer ou qu'auront participé, qui voudront nous accompagner là-dedans et voilà, aller plus loin dans la... mise en lumière de leur identité et de leurs origines.
Et par rapport à ça, justement, à ce recueil finalement d'histoires et de paroles, il n'y a pas eu de difficultés. Les jeunes se sont prêtés au jeu facilement.
Alors, côté jeunes, pour en avoir discuté avec Lola, je sais qu'il y a des... Donc, il y a quelques portraits de jeunes qui ont tracé leur parcours. Je crois qu'il y a un ou une jeune avec qui elle a discuté, qui a donné des éléments, qui s'est beaucoup raconté, mais qui n'a pas voulu le faire apparaître sur la carte. Ce qu'on comprend tout à fait, cette démarche d'avoir raconté, déjà, c'est bien. Enfin, si ça a été important pour elle et, ou pour lui, c'est déjà super. Après, que ça n'apparaisse pas sur la carte, bah, peu importe finalement. L'idée, c'est aussi de se raconter, de voir le parcours qu'on a fait, puis d'en parler avec quelqu'un si on en a envie. Donc j'imagine qu'il y a certaines personnes pour lesquelles c'est pas forcément facile, en tout cas, de le montrer aux autres. On peut en parler avec quelqu'un à qui on a confiance, je pense, mais c'est pas forcément facile de le montrer. Nous, à l'ALEP, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Et au centre social, non plus, c'est surtout des apprenants, on dit comme ça, c'est des personnes qui apprennent un peu la langue française avec notre collègue Aurore du centre social. Ouais. Voilà, qui ont été accompagnées par Aurore pour aussi un peu parler de leur parcours, qui est parfois assez compliqué, parce que ça peut être des gens qui ont... voilà, qu'on parcouru des pays, qu'on fuit la guerre, qui, bon, c'est parfois des histoires un peu compliquées. Et c'est pour ça qu'on invitait les personnes à nous raconter ce qu'elles voulaient. On n'avait pas de questions précises. Voilà, si l'histoire est compliquée, si ils ont fui une situation compliquée et qu'ils veulent pas nous parler de ça, mais qu'ils veulent nous parler du culinaire dans leur pays. Enfin, voilà, c'est pas un problème, quoi. Vraiment, les personnes racontaient ce qu'elles voulaient.
Ouais. C'est d'accueillir les personnes telles qu'elles sont et avec ce qu'elles ont envie de donner, quoi.
Oui, on sait parfois qu'il faut longtemps avant de pouvoir raconter.
C'est bien pour ça qu'on laisse marcher, avancer.
Bah, longue vie, hein, en tout cas, à ce projet. Et alors, après donc ce vernissage, il y a eu la conférence gesticulée.
Oui.
Alors, le thème, c'était quoi ?
Alors, ça s'appelait « Hasta siempre la libertad » ou « Une autre histoire de la désintégration » par Julie Babamy de Souza. Le thème, alors, elle a abordé plein de choses. C'est une femme, donc, elle a commencé dans sa conférence gesticulée par se situer, dire qui elle était, en l'occurrence une femme, d'un père algérien et d'une mère portugaise, ce qui est pas rien finalement ici, dans la vie en France, mais aussi dans sa conférence gesticulée, ça prend une grande place. Elle nous a parlé du fait que, puisqu'elle a des parents issus de l'immigration et qui avaient des... sa mère, par exemple, est femme de ménage, elle n'a jamais pu aller plus haut, elle nous a raconté. De par ses origines et le fait que, voilà...
Elle n'a pas eu l'opportunité de s'élever, entre guillemets, socialement, voilà, par rapport au travail.
Voilà. Et Julie expliquait que, à côté de ça, elle est musicienne, elle fait partie d'une batucada dans la ville dans laquelle elle vit. Et c'est pour un peu, elle nous a dit, casser l'image des femmes portugaises en France, femmes de ménage. C'est qu'elles ne sont pas juste femmes de ménage, même si il n'y a aucune honte à faire le ménage dans un endroit, évidemment.
Bien sûr.
Mais elles ne sont pas... juste femmes de ménage, elles peuvent être bois de talent aussi comme plein de gens et qui voilà, c'est une grande musicienne. Mais en tous les cas, elle expliquait que ses parents avaient toujours voulu faire d'elle un peu la première de la classe, quoi. Il fallait qu'elle soit pas cinquième, pas sixième, pas 14 sur 20, non, la première de la classe. Parce que ici en France, t'es issu de la migration, ta mère est portugaise, ton père est algérien, bah, faut que tu te battes, t'as encore plus de marches à gravir qu'une personne qui n'aurait pas ces freins-là. Et je pense que les gens ont vraiment trouvé ça intéressant. Et après, voilà, donc ça, c'est son histoire aussi de femme ici dans la société. Et elle l'a alimentée, comme dans toutes les conférences gesticulées, de ce qu'on appelle savoir froid en éducation populaire, donc plus les savoirs universitaires. Donc voilà, elle a parlé de Robespierre, elle a parlé de Olympe de Gouges.
Je peux revenir juste sur son histoire, parce que c'était assez drôle. Elle avait une mise en scène qui était assez comique. Et à un moment donné, pour présenter elle et sa famille, elle met des photos, donc des grandes photos. La première photo qu'on voit, c'est une vierge. Enfin, c'est la Vierge Marie, d'ailleurs. La deuxième photo, c'est un lion. Et la troisième photo, c'est Taz. C'est ça, hein, ouais. C'est le monstre de Tasmanie. Voilà. Et elle explique pourquoi elle a choisi ces trois photos. Donc la première, alors je ne me souviens plus trop, le roi lion, peut-être tu te souviens, mais je me souviens bien de la Vierge Marie. En fait, sa mère s'appelle Maria Concepcion. Ouais, Concepcion, voilà, c'est ça. Donc ouais. Là, elle dit, c'est clair, son image, je n'avais pas le choix. Et sur le lion, elle cherchait... Ah oui, c'est ça, elle explique. Elle cherchait un héros musulman.
Un héros oriental.
Un héros musulman. Oriental, ouais. Sur Internet. Ouais.
Rien du tout.
Ouais. Et de fil en aiguille, elle tombe sur un lion. Alors, je ne sais plus trop pourquoi sur le lion, mais en tout cas, c'était... Voilà, elle explique qu'elle essaye de trouver un héros oriental et il n'y a rien du tout, quoi. Enfin, tu vois déjà... après, le monstre de Tasmanie, elle explique qu'en fait, quand elle était petite, elle était terrible et...
voilà, elle courait partout et qu'on ne pouvait pas l'arrêter, quoi.
Et tout ça dans une mise en scène où elle est grimée, un peu, déguisée,
complètement.
À certains moments, elle est grimée quand elle, par exemple, elle se déguise en Robespierre, elle se déguise en Bakounine, et à chaque fois, elle prend les accents, c'est super drôle. Robespierre, elle prend l'accent
québécois,
parce que, alors pas parce qu'il est québécois, mais parce qu'elle explique, en fait, donc c'est quelque chose qu'on a appris, c'est que si les Québécois parlent comme ils parlent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été, c'est parce que les Français de l'époque qui sont venus là-bas, a priori, parlaient comme
ça.
À l'époque, en France, a priori, on parlait comme les Québécois aujourd'hui. Donc voilà, elle fait tous les accents. Elle met des perruques, enfin c'est super drôle et puis en plus on apprend des choses quoi. On apprend. Moi Bakounine, je connaissais pas grand chose sur lui et j'ai appris des choses, c'était super intéressant.
Elle met en scène l'histoire et ça c'est plutôt pour apprendre.
Ah oui, bien sûr. C'est
ça
génial.
Ça passe beaucoup plus dans l'esprit quoi.
Ah bah oui, quand c'est ludique, c'est plutôt ça marche plutôt pas mal. On retient mieux
c'est
même
ça.
Parfois.
Ouais, c'est ça.
Et puis elle donne des exemples, par exemple, on en a parlé avant l'émission, ça nous tenait à cœur de donner certains chiffres, des chiffres sur l'immigration.
Oui.
Alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on a cette idée reçue que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte. Finalement, il y a des chercheurs de l'université de Lille en France, donc qu'on fait des études, une étude là-dessus.
Qui a été commanditée par le ministère des Affaires Sociales.
Des Affaires Sociales, et... donc, tu as retenu les chiffres, il me semble.
Alors, en fait, en termes de cotisation, on donnerait 49,7 milliards aux populations d'origine étrangère. Mm-hmm. Mais lorsqu'on reprend impôts, taxes, etc., enfin bon, voilà, les salaires, machin, en fait, ça rapporterait à l'État 61-62 milliards. En gros, sur l'immigration, on a 12 milliards, quoi.
Ouais,
plus.
En plus. Ouais.
Donc, non seulement ça ne coûte rien, mais ça rapporte à l'État. Parce qu'il y a du travail aussi, parce que derrière les gens travaillent, donc ils ramènent les cotisations, etc. etc. Donc voilà, les idées reçues, et ça c'est quand même une étude de chercheurs universitaires commanditée par le ministère. Alors je ne sais pas à quel moment, ça doit être 2012 peut-être, je ne sais plus l'année exacte, vous pouvez le rechercher sur Internet, vous trouverez facilement.
Voilà, c'est ça.
Ça se trouve facilement. Je trouve que c'est un élément qui est important à savoir.
Bah oui, c'est pour un peu casser ces idées reçues-là. Et une fois qu'on le sait, finalement, on se dit, déjà, ça prouve qu'il y a plein de choses qui passent dans les médias ou que les gens disent. Et il faut toujours aller vérifier les sources. Et là, pour le coup, c'est une étude universitaire commanditée par le ministère. Donc, ça nous tenait à cœur de le dire.
Et si c'est 2012, vous faites bien, oui. Si c'est 2012, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres depuis.
Certainement, certainement.
Oui, il y a encore eu d'autres chiffres qui sont sortis récemment. Donc, Et tout ça, effectivement, hein, il faut quand même rappeler que ce genre d'études est disponible maintenant avec Internet. Mmh. On peut avoir quand même un certain nombre de renseignements, ce qui est quand même très intéressant pour. Il faut faire de la pédagogie pour déconstruire tous les clichés. Alors, la conférence gesticulée, c'est aussi le principe, c'est-à-dire que ça fait partie effectivement de la défense de certaines valeurs aussi.
Tout
hein,
à fait. Les conférences gesticulées, elles sortent du mouvement d'éducation populaire.
Voilà.
Hein. Donc, il y a forcément un engagement avec lequel on est d'accord ou pas d'ailleurs. Et là, en tout cas, la conférencière, mais pour toutes celles que j'ai vues, elles expliquent bien, elle l'expliquait bien, qu'elle apporte des savoirs, comme tu disais très bien, des savoirs froid, c'est-à-dire au maximum des faits, et ensuite un savoir chaud, donc son histoire, donc il y a un point de vue. Donc on a le droit, et c'est le principe de la conférence, c'est de débattre ensuite de ce point de vue qu'elle apporte.
Oui.
Voilà. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir discuter en groupe autour des questions de société.
Voilà, donc parce qu'à la fin, donc, ça dure à peu près une heure et demie, à la fin, il y a une possibilité, un débat
Il y a eu des échanges,
entre le public.
Les personnes qui le souhaitaient ont pu poser des questions à la conférencière, et il y a eu des échanges, et c'était très riche, justement. Les personnes n'étaient pas forcément toujours d'accord avec tout ce qui avait été dit, mais c'est ça, c'est qu'elle expliquait très bien que c'était pas le propos d'être d'accord avec tout, c'est que voilà, il y a des choses, le savoir froid, il y a pas tellement à être d'accord ou pas d'accord, c'est des études, c'est des chercheurs qui ont parlé, mais pour le savoir chaud, elle en dit des choses, quoi. Et après ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais on peut en parler. Justement, en parler, ça permet de pas rester sur ces.
Le principe, c'est d'illustrer le savoir froid à partir de ce savoir chaud.
C'est ça.
Ouais. Mon expérience, c'est celle-ci, et voilà comment certaines théories ou certains concepts, etc., peuvent éclairer nos histoires sociales. Quoi.
C'est ça. Ouais. C'est qu'on part du principe que chacun et chacune a une histoire, et y a pas besoin d'avoir fait des longues études ou quoi que ce soit. Et ça, c'est en éducation populaire qu'on le dit aussi, c'est que chacun est riche de son histoire et peut la raconter et on peut toutes et tous apprendre de l'histoire de l'autre. Et voilà, peu importe si c'est un grand chercheur ou une grande chercheuse ou si c'est une personne lambda qui va nous raconter des choses.
Et c'est tout le principe justement d'essayer de déconstruire le système de domination. Et ça, dans toutes les conférences gesticulées, c'est ce principe justement. Voilà, de replacer les choses et que, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'on a chacun un savoir, une histoire, etc. Et que le système de domination qui est en cours, comment on peut c'est pas nécessairement le démonter, mais en tout cas le rééquilibrer.
Le remettre en question,
exactement.
Voilà. Et selon les intervenants, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais parfois l'intervention du public est très importante. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi des jeux de mise en situation à partir d'une problématique où, à la limite, il y a le camp du oui et le camp du non par rapport à cette problématique qui s'affrontent. À coup bien sûr d'arguments. Pacifiste, et du coup c'est très intéressant ça aussi ça fait partie du débat finalement.
Souvent les conférencières gesticulantes proposent des ateliers avec un nombre de personnes plus restreint que quand toute la salle peut participer au débat, et là dans ces ateliers effectivement ils peuvent faire des débats mouvants, et c'est plus on se raconte plus déjà parce qu'on est moins. Par exemple, il y avait une conférence gesticulée qu'on avait organisée il y a 2 ans, il me semble, avec Catherine Markstein sur la santé des femmes. Et elle avait proposé un atelier qui était ouvert jusqu'à 12 personnes, il me semble. Et là, les personnes se racontent plus, et on peut faire du débat, on peut faire des choses, et c'est plus approfondi.
Ouais.
Mais ça dure vite 3-4 heures. Voilà, c'est autre chose que le débat à la fin. Mais les deux sont très très intéressantes parce que le débat à la fin permet à tout le monde de pouvoir participer. On n'est pas un nombre restreint.
Je vous propose une petite pause musicale. On reprend la discussion tout de suite après. Come on. Hands up, hands up,
Hands up, come on. Louisiana camouflage bandana around there, had to man up, and know you had to stand up. Didn't believe in Santa, I hustled in front of grandma last seen by the circle when the lights went out. I must have made about a couple hundred thousand in droughts. Tyler, Donna, and Ralph's when I was out and about. Behind the second line, cool with 22s and a 6. You get a whole lot of respect when you're that dude on the bricks. From the corner to the block, from the corner to the block. TC and LD with me, 6 and Willa Washington and Clara Street with me. My front post was the bus stop, my face was a mugshot. Money was running low, so I hit some hustles and whatnot. Plenty leisure, feel me and Ricky at the truck stop. Pick a bit of home and get home and got the cut out. This is my plan and where I'm from to get shut out. Jupiter, great man, who else gonna be but I? From the corner to the block. From the corner to the block.
Et voilà, si vous avez vu la super série Très Aimé, je ne sais pas comment on dit, enfin voilà, sur une série sur la Nouvelle-Orléans, magnifique, voilà, From the Corner to the Block. Alors ça, c'est mon accent à moi, on ne me le prend pas. vous êtes toujours sur Studio Zef, bien sûr, et vous êtes toujours en compagnie de Mélanie, Virginie et moi-même, Véronique. Tiens, je me présente, tac. Dans l'émission L'Alep de l'éducation populaire à Blois, comme une fois par mois, le lundi. Alors, on en était à la conférence gesticulée avant la musique. Est-ce que, Mélanie, tu as envie de rajouter quelque chose quand ça s'est... Voilà, la réaction donc, du public a été super positive. Ouais. Ça prend à chaque fois parce que vous avez l'habitude d'organiser des conférences gesticulées.
Maintenant, on commence un peu.
Ouais. Ouais. Oui, deux par an à peu près depuis deux ans, ouais. Deux ans et demi.
Et à chaque fois, ça va. Il y a quand même un peu de monde qui vient ou c'est. Là, ça dépend des thèmes.
Oui, c'est aussi. Ça. Ouais. Ça dépend des thèmes.
Et puis peut-être que les gens commencent à connaître, parce que je sais que la première fois c'était en 2017, celle d'Anthony Pouliquen sur le sport qui est géniale et sur la compétition. Et on n'a pas eu grand. Alors on a eu peut-être une vingtaine de personnes, trentaine de personnes. Je pense que ça arrivait tout juste à Blois. bon, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai organisé la première blésoise non plus, mais en tout cas, voilà, je crois qu'il y a l'ALEP et le planning familial qui fait des conférences gesticulées à Blois et c'est tout. Donc ça serait bien que, avis à ceux et celles qui trouvent ça intéressant et qui ont des associations, eh bien, si vous pouvez en programmer aussi.
Alors justement, comment on organise une conférence gesticulée dans son lieu ? Est-ce qu'il y a une plateforme dédiée à ça ?
Il y a une plateforme des conférences gesticulées. Alors, je ne sais pas si elles y sont toutes, mais en tout cas, il y en a vraiment un grand nombre. Alors, je ne sais pas le titre exact du site, mais voilà, on tape conférences gesticulées. Et elles sont classées par thème. Et voilà, et après, il y a, il y a le contact de la personne, qui, du conférencier ou de la conférencière. Et on le ou la contacte, et puis ça roule comme ça. Voilà.
Et dans ton souvenir, quand tu as consulté cette plateforme, est-ce qu'il y avait des gens dans la région, dans le Loir-et-Cher ?
Ah non, par contre...
Non, c'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs.
Alors il y en a, je ne sais pas s'il y en a à Tours, parce que souvent c'est des... ou de la région centre.
De la région centre,
c'est vrai que je ne sais pas si elles sont classées par endroit d'où viennent voilà, les conférencières et les conférenciers, mais je ne sais pas. Là, on en a fait venir une de Belgique, une d'Amiens, un de Bretagne, une de Strasbourg, je crois que c'est ça à peu près. Et puis là, le prochain qui vient, il vient de Lille, donc voilà. Bon. Personne de la région, mais...
Très bien.
Il me semblait que... Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais il me semblait que Virginie. Elle avait quelque chose de très intéressant.
Non, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est que simplement, toutes les conférences gesticulées... j'ai dit quoi déjà ? Je ne me rappelle plus tout à l'heure. Nous permettent de lire le système de domination qui est à l'œuvre, en fait. Et à chaque conférence, on retrouve à peu près le même mode de fonctionnement. C'est comment on va voir en arrière-plan ce qui se passe dans notre système, en fait. Voilà. Oui. Et ça permet au public et au public en général de se repositionner différemment par rapport, on parle de classe sociale, par rapport aux classes sociales. Et on est souvent dans ce principe de classe et de dominant-dominé.
Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que ça n'existe plus, les classes sociales.
On a dit ça, mais là, on l'a bien vu avec les dernières manifestations, etc. C'est une manière de dominer aussi, d'abolir.
Mais en tout cas, ça simplifie des propos, des notions. Les conférenciers et les conférencières simplifient des notions de chercheurs. Bah, par exemple, Julie a parlé de Bourdieu. Et elle a bien expliqué les certaines notions de Bourdieu et c'était intéressant parce que ça permet d'expliquer différemment que dans les livres et on comprend.
Parce qu'elle le met en scène, elle parle du capital social, du capital culturel, du capital économique et elle le met en scène par rapport à son histoire à elle et à l'histoire de sa famille. Mmh. Voilà.
Oui, c'est bien parce qu'il y a ce mélange entre la subjectivité de son histoire et l'objectivité d'une recherche ou de situation concrète, de fait, quoi, concret. Donc c'est les propos sont bien illustrés.
C'est ça.
Un va-et-vient.
Et elle, comme les autres conférenciers, montre qu'on fait partie d'un monde social.
Ouais.
Voilà. Mmh.
Très bien. Bah, je vois que vous êtes bien emballés. Avant de terminer cette émission, peut-être une petite annonce, Mélanie ?
Oui. Hein ? Là, on a parlé de la programmation du mois de février. Je veux juste annoncer une chose qui se passera au mois de mars, mais il y a un lien quand même. C'est que c'est une conférence gesticulée. La conférence gesticulée de Clément Cap qui s'appelle « Rassurez-vous, vous êtes suivi ». C'est une conférence gesticulée sur la psychiatrie en France. Et on l'organise en partenariat avec l'EPIC, École de psychothérapie institutionnelle de la Chênaie, de la clinique psychiatrique de la Chênaie, à Chaille. Donc en partenariat avec eux. Et c'est dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, la SISM, qui est organisée par le GEM Amila à Blois, et en partenariat avec l'UNIAFAM et en partenariat avec plusieurs associations qui œuvrent pour les personnes porteuses de maladies psy. Voilà, donc ça c'est lundi, là cette fois c'est un lundi parce que les conférences de l'EPIC sont le lundi, donc on s'est mis sur leur jour, donc lundi 23 mars à 21h. Alors sur notre programme il y a marqué 20h30, mais il me semble quand même que c'est 21h.
Mais c'est bien, il faut être toujours en avance quand
même. Voilà, si vous arrivez à 20h30, vous pourrez parler avec le conférencier avant et après.
Vous allez sur le site de la Alep et vous
voilà,
aurez,
vous aurez la,
l'information.
La vraie information.
La bonne.
Voilà, donc ça s'appelle Rassurez-vous, vous êtes suivis. Est-ce que je lis le
oui,
petit résumé ?
Oui, bien sûr.
Allez. Alors, c'est un peu, c'est une petite poésie.
Ouais.
Rassurez-vous, vous êtes suivi par Clément Cap. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital psychiatrique. J'ai rencontré quelques institutions civiques. Et aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on s'applique à se réapproprier collectivement le schmilblick. Alors, entre vous et moi, je mets mon jeu en jeu. Comprendra qui pourra. Tapis. Et tant pis pour les émois, je prends mon errance par les cornes et j'en joue une conférence encore. Alors, c'est plus pratique de l'avoir en face de nous en train de la lire,
ouais.
Parce qu'il y a des jeux de mots et voilà.
Bien sûr. Tout un programme. Et d'ailleurs, je rebondis sur les SISM, donc oui. Les semaines d'information sur la santé mentale, pour préciser aux auditrices et auditeurs que sur Studio ZEF, il y aura quelques émissions pendant cette période autour justement de la psychiatrie, des personnes en difficulté, autour du handicap et de l'emploi. Donc je vous invite à suivre la programmation de Studio ZEF. Donc on se retrouve le mois prochain pour la programmation très étoffée du
oui.
mois de mars. Hein. Là, ça va être
juste si que vous n'oubliez pas, vendredi ouais. 7 février
bien
à partir
sûr.
De 18h, les vendredis de l'espace Quinière.
Mais bien sûr, on n'oublie pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être passé encore ce soir sur le plateau de Studio ZEF.
Merci.
Donc, je rappelle que cette émission était podcastable, hein, téléchargeable, c'est pareil, hein, on dit les deux. Voilà. Sur le site de Studio ZEF, studiozef.fr. À bientôt à la radio.